Chapitre 16. Il dormait. La tête renversée sur l'oreiller, la gorge offerte. Un ronflement léger, presque musical, s'échappait de sa bouche entrouverte. Quelques instants plus tôt, le gros orteil d'Alice avait heurté un gobelet de plastique. Le bruit, pourtant fracassant, n'avait pas réveillé le Grax, ni les enfants, dont elle entendait les respirations régulières et sifflantes. Elle s'était approchée du lit, le couteau plaqué contre sa cuisse, transie de frayeur et de froid. Bien que revenue dans la bulle de chaleur, elle ne parvenait pas à se réchauffer. Les lueurs rougeoyantes du poêle éclairaient les pieds d'Elie séparés les uns des autres par des draps suspendus à des cordes. Elle leva le couteau, incapable de maîtriser ses tremblements. Il suffisait pourtant d'abattre la lame, qui s'enfoncerait comme dans du beurre dans cette gorge à la pomme d'Adam saillante. Malgré la faiblesse de la lumière, elle remarqua des détails qu'elle n'avait jamais observés auparavant. Le large grain de beauté au coin de la clavicule, les poils foisonnants dans le creux de la base du cou, la cicatrice blanche sous la mâchoire gauche, les cratères épars forés par l'acné sur les pommettes et les joues. Elle n'avait jamais regardé Jim, même lorsqu'elle avait cru avoir envie de lui. Comment avait-elle pu le désirer? Sa beauté diabolique l'avait séduite. Il avait désormais la laideur d'un ange déchu. La grossièreté enrobait la délicatesse originelle de ses traits. Elle ressentit de la pitié pour ce visage martelé et durci par la vie. Elle se ressaisit. Pas le moment de fléchir. À trois, elle abaisserait la lame. Un. Deux. Elle se crispa. Trois. La lame resta d'interminables secondes suspendue au-dessus de la gorge palpitante du Grax. Si elle ne le tuait pas, le prédateur finirait par violer sa fille et martyriser son fils. C'était un être démoniaque. Il ne lui appartenait pas de lui trouver des circonstances atténuantes. Elle devait lui ouvrir la gorge, sans haine, avec détermination. Elle en appela aux héroïnes de son panthéon personnel, à ces femmes admirées en secret qui avaient accompli leur devoir sans faiblir, parce que la situation l'exigeait, parce qu'elle ne transigeait pas avec elle-même. Olympe de Gouges, Louise Michel, Rosa Parks, Indira Gandhi. Certaines l'avaient payé de leur vie, comme Charlotte Corday, la jeune exaltée du pays d'Auge qui, par haine de la sanglante montagne, avait eu l'audace de frapper au cœur le terrible Marat dans sa baignoire. Alice avait lu et relu les biographies qui leur avaient été consacrées. Elle l'avait vengée de la médiocrité de son existence, de ses abdications. Son bras refusa de s'abaisser. Elle n'entrerait jamais dans leur cercle. Jim entr'ouvrit les yeux, deux traits brillants entre les cils encore collés par le sommeil. Il découvrit le couteau pointé une cinquantaine de centimètres au-dessus de son cou. Il ne parut pas surpris de découvrir Alice penchée au-dessus de lui. Il eut pour seule réaction de sourire. Oui, il sourit, comme pour signifier à son agresseuse qu'il ne la craignait pas. Il savait qu'elle n'aurait pas le courage, qu'elle appartenait à la multitude terne des êtres veuls, emberlificotés dans leurs principes, et il lui tourna le dos avec une tranquillité et une négligence qui la stupéfièrent et l'humilièrent. Non seulement elle n'avait pas débarrassé le feu de Dieu du parasite qui le rongeait, mais en lui montrant ses véritables intentions, elle avait gâché l'effet de surprise. Elle lui avait déclaré une guerre qu'elle n'avait pas les moyens de gagner. Elle avait aggravé le danger qui planait sur la tête de ses enfants. Elle tenta une dernière fois de plonger la lame entre les omoplates de Jim. Son corps tout entier ne lui appartenait plus. Pétrifiée. Elle ne sut combien de temps elle demeura dans cette position. Son bras finit par retomber le long de son corps, inerte. Une fatigue intense l'engourdissait. Elle n'avait plus de volonté, plus de force. Elle avait échoué. Elle ne s'était pas libérée des chaînes du Grax. Il n'y avait aucune désolation, aucune révolte dans cette constatation. Elle était résignée. Elle se sentait morte. Si Jim ne fit aucune allusion à la tentative de meurtre d'Alice, il ne manqua pas d'en tirer avantage. Il régnait désormais sur le feu de Dieu, en tyran sûr de sa puissance, en roi fainéant. Il ne se levait que pour esquisser quelques mouvements d'assouplissement, se laver. Alice avait estimé qu'allumer et éteindre sans cesse le générateur consommait finalement plus de gazole que de le maintenir en veilleuse. Boire un café, manger, se gratter l'entrejambe, se rouler une cigarette. Il avait fortement diminué sa consommation de tabac, car il ne lui restait plus qu'une dizaine de paquets, et le manque le mettait dans une humeur massacrante. Pendant qu'il prenait sa douche, Alice avait recommandé à ses enfants de le contrarier le moins possible.
« Qu'est-ce que tu attends pour ?»
Zoé avait baissé le son de sa voix après avoir jeté un coup d'œil à Théo.
« Tu sais, pour ce qu'on avait dit. »
« J'ai essayé la nuit dernière. J'ai pas eu la force. »
« Il t'a vu ?»
Alice avait hoché la tête, se retenant sans trop savoir comment, d'éclater en sanglots.
« Putain, ça craint. Il va se méfier maintenant. Faut absolument qu'on trouve le moyen de l'endormir. Et puis, si t'es pas capable de... Enfin, tu sais, c'est moi qui me chargerai du reste. Je te l'interdis, Zoé. Tu m'entends ?»
Zoé s'était redressée sur son lit, butée.
« Tu peux m'interdire tout ce que tu veux. Je ferai ce que je voudrais. Ne t'avise surtout pas de jouer les héroïnes. »
Il a ouvert les yeux au moment où je m'apprêtais à le frapper. Il a un sixième sens, comme tous les prédateurs. On ne le tuera pas comme ça.
On va tout de même pas se laisser maltraiter par ce monstre jusqu'à la fin des temps.
Il faut réfléchir, surtout pas agir sur un coup de tête.
Je vais essayer de...
La fin des temps, elle est déjà arrivée,
avait coupé Théo.
Bouge-toi les oreilles, microbe, et occupe-toi de tes fesses.
Zoé,
avait protesté Alice.
C'est papa qui reviendra s'occuper du Grax,
avait insisté Théo.
Me dis pas encore que t'as des visions,
avait gloussé Zoé.
Je sais qu'il est vivant et qu'il essaie de rentrer chez nous.
On peut survivre dans un abri, sûrement pas dehors.
Il est avec d'autres hommes, dans, on dirait un magasin. Je sais pas ce qu'ils font, c'est trop sombre.
Moi, je crois que tu t'inventes des histoires, microbe.
Théo s'était retiré dans un silence boudeur. Jim était revenu de sa douche, l'œil et le poil luisants, et avait mis fin à leur conversation. Alice se creusait la cervelle du lever au coucher. Mortifiée par son échec, par les reproches de Zoé, elle échafaudait mille et un stratagèmes, mille et une façons de venir à bout du Grax. Il la traitait désormais comme sa servante. Il lui donnait des ordres et menaçait de la frapper si elle ne les exécutait pas assez rapidement ou si elle montrait le moindre signe de réprobation. Elle regrettait amèrement de ne pas avoir eu la force de plonger le couteau dans sa gorge. Elle avait eu davantage peur d'elle-même que de lui. Peur d'être à jamais reniée en tuant un être de son espèce. D'où lui venait cette terreur? Elle n'avait jamais cru au paradis ni à l'enfer. Elle accordait toujours un certain intérêt à la réincarnation, un temps défendu avec acharnement par Franks, mais le concept d'action-réaction renvoyait à la responsabilité individuelle, excluant la notion de châtiment suprême et définitif. Craignait-elle les conséquences de ses actes? Était-elle à jamais dépourvue de la moindre larme de courage? Si Théo continuait de la regarder avec l'amour inconditionnel d'un fils, elle entrevoyait du mépris dans les yeux de sa fille. Au moins pour regagner l'estime de Zoé, elle devait violer le tabou suprême, crever le plafond, puiser dans une autre elle-même pour neutraliser définitivement le Grax. Elle résolut d'étouffer ses révoltes, de feindre la soumission, d'endormir la méfiance de Jim et de tendre son ressort intérieur jusqu'à ce qu'elle puisse accomplir le geste qui s'était refusé à elle. Lorsque Franks reviendrait, elle recommençait à être influencée par les visions de Théo, il trouverait un feu de Dieu débarrassé de son prédateur et ils reconstruiraient leur vie commune dans une demeure nettoyée de ses ombres. Le Grax, qui en avait marre de ne rien voir et de se cogner partout, exigeait de maintenir les lampes allumées de la grande salle, pas seulement le plafonnier, mais aussi les appliques et l'halogène, qui pourtant consommaient une grosse quantité d'électricité, donc de gazole. Il voulait, crachait-il, vivre de façon normale. Il ne voyait pas pour quelle raison il était privé du confort minimal alors que la période d'obscurité et de froid ne durerait selon lui que quelques mois et qu'on avait largement de quoi subvenir aux besoins.
« Ouais, mais si elle dure 10 ans ?»
avait objecté Zoé. Le Grax lui avait lancé un regard de colère et de désir mêlé. Alice avait constaté à l'occasion que sa fille avait embelli, que son visage avait perdu ses rondeurs enfantines, qu'elle grandissait à vue d'œil.
Une nuit de 10 ans, ça s'est jamais vu.
Ah ouais, et comment tu peux le savoir? T'étais pas sur Terre pendant les 5 milliards d'années qui nous ont précédés.
Alice supplia intérieurement sa fille de se taire. Jim se leva et se dirigea à grandes enjambées vers le lit de Zoé.
On dirait que ça t'amuse de me contredire?
Elle se redressa, son petit cahier serré contre elle, et soutint sans sourciller le regard étincelant de Jim. Des mèches de ses cheveux dépassaient de son bonnet de laine. Elle avait passé une veste polaire par-dessus ses deux pulls, sa tête semblait posée sur un corps disproportionné.
« Papa a dit qu'il fallait plusieurs années avant que se disperse le nuage de particules. »
Jim désigna la pièce d'un geste du bras.
Ton père, il n'avait pas tout prévu, puisqu'il s'est fait surprendre comme un con par le cataclysme. »
Zoé pâlit, mais retint les larmes qui lui embuaient les yeux.
« Peut-être, mais tout ce qu'il avait annoncé est arrivé. Et ça s'est passé exactement comme il l'avait dit, alors tu ferais mieux de pas gaspiller les réserves de gazole et de bouffe si tu veux pas crever, toi, comme un con !»
Jim s'avança d'un pas et se retourna vers Alice.
« Dis à ta fille de pas me parler sur ce ton !»«
Zoé, tu ne devrais pas... »
commença Alice.
« Ah non, maman, tu vas pas obéir comme un caniche à cette espèce de psycho !»
La gifle claqua avec une telle violence que la tête de Zoé parut se détacher de son tronc. Alice jaillit de son fauteuil, se rua sur le Grax et tenta de lui griffer le visage. Il la saisit par les poignets, la frappa du pied dans le ventre et la repoussa. Le souffle coupé, elle parcourut 4 ou 5 mètres à reculons avant de tomber de tout son long sur le carrelage. Il lui bondit dessus sans lui laisser le temps de se relever, pesa sur elle de tout son poids en lui posant les deux genoux sur la poitrine et l'empoigna par les cheveux.
« Recommence une fois ça et je te tue, t'entends? Je te tue !»«
Lâche-la !»
cria Zoé.
« Toi, tu fermes ta gueule ou je t'en colle une deuxième !»
Malgré ses larmes, Alice entrevit la silhouette menue et figée de Théo sur son lit. Sa lâcheté condamnait ses enfants à vivre dans la terreur. Elle se promit de ne pas rater Jim la prochaine fois. Mais se verrait-elle offrir une deuxième chance? Le Grax se leva. Elle put à nouveau respirer. La douleur s'épanouissait dans son ventre comme une fleur aux pétales ébréchés. Elle ferma les yeux. Les hurlements de Zoé la contraignirent à les rouvrir aussitôt. Le Grax était en train de lui arracher son cahier des mains. Elle résistait, accrochée de toutes ses forces à son trésor. Jim la tirait en souriant vers le bord du lit. Alice tenta de se relever. Elle en fut incapable, prise de vertige, plaquée au sol par la douleur.
« Fais voir ce que t'as écrit là-dedans !»«
T'as pas le droit, salaud, salaud, t'as pas le droit !»
Zoé tomba du lit sans lâcher le cahier, dont quelques pages se déchirèrent dans un craquement. Elle s'enroula aussitôt sur elle-même, obligeant le Grax à lâcher prise. Il la frappa dans le dos, entre les omoplates. Elle resta recroquevillée sur elle-même en poussant un gémissement.
« Que tu le veuilles ou non, petite conne, je lirai ce que t'as écrit quand j'en aurai envie !»
grogna Jim. Après avoir grignoté une poignée de fruits secs dans la cuisine, il se dirigea vers la baie vitrée de la grande salle et contempla la cour intérieure baignée de ténèbres et de grisailles. Alice surmonta sa douleur pour se rendre près de sa fille toujours prostrée sur le carrelage. Elle voulut prendre Zoé dans ses bras, qui l'en empêcha en s'ébrouant comme un chien.
« Laisse-moi !»
Elle ramassa les feuilles de papier froissées, déchirées, couvertes d'une écriture ronde et appliquée.
« Je les mets sous ton oreiller !»
murmura-t-elle. Théo pleurait en silence sur son lit. Alice s'assit à ses côtés et attendit qu'il vienne poser la tête sur sa poitrine pour lui entourer les épaules de son bras et le serrer à l'étouffer.